Domaine public, document 3.
Infoscience avec Daniel Fievé. Bonjour Daniel.
Bonjour Agnès.
On le sait, la musique adoucit les mœurs et on en parle aujourd'hui évidemment parce que c'est la fête de la musique. Mais est-ce que plus scientifiquement, la musique agit sur notre cerveau et comment ?
Oui, alors cette question est au cœur d'un livre passionnant, De la note au cerveau, c'est son titre, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Son auteur, Daniel Lévitin, est un Canadien au parcours vraiment étonnant. Avant de devenir chercheur, il a travaillé pendant une dizaine d'années avec de nombreux musiciens célèbres comme Stevie Wonder ou Eric Clapton. Et cela l'a amené à se poser quelques questions du genre « Pourquoi certaines chansons nous touchent-elles alors que d'autres nous laissent de marbre ? Qu'est-ce qui forge nos goûts musicaux ?» Alors pour répondre à ces questions, il est retourné à l'université, il a étudié et c'est ainsi qu'il est devenu un neuroscientifique aujourd'hui reconnu.
Alors a-t-il trouvé dans les neurosciences des réponses aux questions qu'il se posait sur ce qui façonne nos goûts musicaux ?
Des éléments de réponse, oui. Par exemple, dans son livre, il raconte une expérience menée en Grande-Bretagne avec des bébés. Cette expérience a démontré que un an après leur naissance, les nourrissons reconnaissent et aiment la musique à laquelle ils ont été exposés dans l'utérus de leur mère. Alors je vous explique cette drôle d'expérience. Des mères ont régulièrement fait écouter un morceau de musique à leur enfant pendant les 3 derniers mois de leur grossesse. Certains fœtus ont eu ainsi droit d'écouter en boucle du Vivaldi, d'autres les Backstreet Boys et d'autres encore du UB40. Et puis après la naissance, les mamans n'ont plus fait écouter ces musiques à leur enfant. Et un an plus tard, les chercheurs ont testé les goûts musicaux de ces bébés.
Alors comment les scientifiques s'y sont-ils pris pour tester les goûts musicaux de bébés d'un an qui ne savaient même pas encore parler ?
Alors pour effectuer ce test, les bébés étaient confortablement assis sur les genoux de leur maman. Ils étaient placés entre deux haut-parleurs. Et lorsque leur regard se portait sur un des deux haut-parleurs, se déclenchait la musique qu'on leur avait fait écouter dans le ventre de leur mère. Alors que lorsqu'ils regardaient le deuxième haut-parleur, eh bien une musique très différente se déclenchait. Résultat, les bébés se tournent préférentiellement vers le haut-parleur qui diffuse ce qu'ils ont entendu dans leur vie intra-utérine. Autrement dit, nos premiers souvenirs musicaux se forment très tôt. L'environnement prénatal influence le développement et les préférences de l'enfant.
Cela ne doit pas être seulement la seule influence, parce que sinon tous les enfants auraient les mêmes goûts musicaux que leur maman.
Oui, évidemment, vous avez raison Agnès. Je ne suis pas en train de dire que si votre mère a des goûts musicaux douteux, vous êtes fichu pour la vie. D'autres influences viennent ensuite. Les scientifiques ont constaté que les enfants ont des goûts qui évoluent avec le temps, un peu comme pour la nourriture. Des expériences ont par exemple montré que les enfants ont une préférence pour la consonance. Alors l'appréciation d'accords dissonants vient avec l'âge et encore les adultes n'ont pas le même degré de tolérance à la dissonance.
Beaucoup de choses se jouent notamment à l'adolescence, évidemment avec la construction de nos goûts musicaux.
Oui bien sûr, vous avez raison. Et là encore, des neurosciences peuvent apporter un élément d'explication. À l'adolescence, notre cerveau se développe et forme des connexions nouvelles à une vitesse incroyable. Au cours de cette phase, nos expériences structurent nos circuits de neurones. Ce processus s'applique à plein de choses, dont la musique. Et les morceaux que l'on découvre par la suite viennent s'intégrer dans la structure que nous avons développée à l'adolescence.
Alors Daniel Lévitin s'intéresse aussi aux raisons inconscientes qui nous font apprécier certaines chansons plus que d'autres.
Oui, il explique notamment que pour qu'un morceau nous plaise, il faut qu'il soit un petit peu imprévisible, avec une part d'inattendu. Certains artistes jouent avec nos attentes. Par exemple, dans la chanson Yesterday des Beatles, les Beatles nous surprennent sans même que l'on s'en rende compte consciemment. Yesterday. Alors pour comprendre, il faut savoir que dans la musique populaire occidentale, les phrases durent généralement 4 ou 8 mesures. Il s'agit d'un schéma que nous avons développé au XXe siècle. Nous avons entendu des milliers de chansons, des milliers de fois, et même sans être capable de l'expliquer clairement, nous avons intégré cette tendance comme une règle. Or, dans Yesterday, la phrase fait 7 mesures. Votre cerveau est conditionné et attend une 8e mesure qui ne vient pas. Voilà pourquoi Yesterday vous intrigue plus, vous accroche plus que d'autres chansons. Et selon Daniel Lévitin, eh bien Steely Dan, Rachmaninoff et Miles Davis sont quelques artistes dont certains ne se lassent jamais précisément parce qu'ils jouent comme ça avec nos attentes. Alors pour en savoir plus sur les processus mentaux en jeu qui jouent quand on écoute de la musique ou même quand on en fait, je vous recommande ce livre De la note au cerveau signé Daniel Lévitin paru aux éditions Héloïse d'Ormesson.